Bonjour, j'aimerais commencer par vous souhaiter la bienvenue à cette vidéo qui va parler de la résilience en milieu du travail. Donc, nos objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui sont de se familiariser avec les atouts essentiels de la résilience individuelle et aussi organisationnelle et d'identifier les forces organisationnelles et les opportunités de développer la résilience en milieu de travail. Donc, nous tenterons d'explorer c'est quoi la résilience et pourquoi la résilience est importante en milieu de travail. Plus que jamais, les milieux de travail, que ce soit gouvernemental, dans les secteurs privés, sont en constant changement. Ce qui fait en sorte que la résilience est plus importante que jamais. En effet, la résilience est la capacité de faire face à des défis. C'est aussi la capacité de persister. Souvent, on parle de rebondir. C'est une capacité de rebondir suite à un défi ou suite à une situation difficile dans la vie. Les habiletés de résilience nous viennent de deux sources combinées. Ça vient de nos habiletés positives acquises qu'on a apprises de nos familles, de notre éducation et de nos relations sociales et culturelles. Puis aussi, d'autres viennent de nos expériences personnelles. Les atouts de la résilience, ce sont des forces individuelles et organisationnelles qui nous permettent de plus facilement gérer avec le changement. Ça nous permet également de s'ajuster lorsqu'il y a un changement et d'apprendre de l'expérience vécue. Les raisons pour lesquelles la résilience en milieu de travail est nécessaire sont nombreuses. Pour en nommer que quelques-unes, les changements rapides dans l'industrie, que ce soit les changements technologiques, les changements au niveau de l'organisation de nos équipes de travail ou même de nos rôles et de nos responsabilités dans un emploi. Le besoin de porter plusieurs chapeaux ou d'assumer plusieurs rôles en milieu de travail. Si on vous demandait combien d'entre vous, depuis le début de votre carrière dans cet emploi, ont changé de fonction ou changé de responsabilité. Donc, on est toujours demandé à changer, à évoluer, à modifier. Donc, également la modification aux descriptions des tâches. Il y a aussi la pression accrue pour performer en milieu de travail. De plus en plus, la performance est très importante et beaucoup d'employés ressentent une certaine pression de performer. Finalement, l'incertitude par rapport au marché et par rapport au futur. Nous allons maintenant prendre un temps pour explorer, une à une, les différents atouts individuels et organisationnels de la résilience. Ces atouts que nous verrons aujourd'hui, premièrement, il y a l'atout des relations interpersonnel. Il y a également les atouts des émotions, les atouts du professionnalisme, les atouts de l'adaptation et finalement, nous regarderons les atouts de l'attitude positive. Donc, si on commence avec les atouts des relations interpersonnelles, bref, c'est le support social ou les réseaux sociaux qu'on établit dans le milieu du travail. C'est effectivement l'atout le plus important de la résilience, les relations interpersonnelles. Donc, les réseaux sociaux, et quand on dit réseaux sociaux, on ne parle pas de Facebook et des autres, on parle du vrai réseautage qui se fait entre les personnes, le contact humain. Et on parle des amis, la famille, des collègues de travail. Les relations interpersonnelles positives avec les gestionnaires et les collègues de travail peuvent agir directement sur nos habiletés de planifier, de se fixer des objectifs et de gérer positivement avec les défis en milieu de travail. Souvent, on parle du réseautage social ou des relations interpersonnelles comme le capital social, qui est très, très important pour qu'on sente qu'on fait partie d'une équipe, qu'on ressent un soutien dans le milieu du travail. C'est surtout important dans les temps de stress, dans les temps de changement en travail, de se tourner vers les autres, de nourrir ses connexions avec les autres plutôt que de se renfermer sur nous-mêmes. Des fois, quand on a des difficultés au travail ou qu'il y a des situations un peu plus difficiles, on a tendance à retourner dans nos bureaux, fermer la porte, s'isoler. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on a besoin de cette connexion humaine, pouvoir mieux vivre la situation. Je pense que c'est important aussi qu'on reconnaisse comment bâtir cet atout relationnel. Puis une des façons, c'est de choisir des gens ou les gens avec qui on va s'entourer, choisir des gens qui sont optimistes, qui sont positifs. Les relations positives avec les gens optimistes vont nous motiver à grandir, à nourrir ces relations-là. Puis cette motivation-là va nous aider dans notre performance au travail. Des stratégies pour créer de bonnes relations interpersonnelles, bien, La première, je pense que c'est de se centrer sur les autres. Donc, être généreux et amical envers les autres. Se tourner vers les autres qui sont peut-être plus introvertis que vous, qui n'iraient pas nécessairement vers vous. Donc, s'ouvrir, commencer des discussions qui vont peut-être permettre de créer de nouvelles relations interpersonnelles qui vont être bénéfiques aux deux personnes. Résoudre des problèmes interpersonnels. Souvent, en travaillant en équipe, il va y avoir des frictions, des malentendus, des situations où on n'est pas tous d'accord. Si on laisse ces situations-là, on les laisse aller ou qu'on ne les gère pas, ça peut créer une certaine frustration, un certain malaise entre les personnes. Donc, si jamais vous êtes dans une situation de la sorte, je pense que c'est important qu'on prenne le temps d'adresser, de communiquer, de se parler, au lieu que la situation s'envenime, qu'on trouve une situation où on peut travailler ensemble, rétablir le respect et la communication entre les personnes. Une chose importante, je pense, dans le milieu du travail, si on veut développer de bonnes relations interpersonnelles, c'est de refuser de diminuer les autres. Donc, décider de ne pas critiquer les collègues de travail et plutôt les féliciter publiquement. Parler positivement des autres, pas juste dans leur face, mais aussi dans leur dos. Donc, si on a des choses à dire, ça devrait être des choses positives. Donc, cette énergie positive va élever les autres, mais va aussi nous attirer une énergie positive, un sentiment de bien-être. Et finalement, passez du temps avec les personnes qui vous appuient. Planifiez de passer du temps avec les personnes qui vous inspirent et qui vous aident à développer votre résilience. Donc, choisissez les gens avec qui vous vous entourez, qui va vous aider à développer vos forces que vous souhaitez nourrir chez vous. Personnellement, je participe à une formation à distance qui s'offre sous forme de vidéo, comme celle-ci, mais là, c'est moi l'étudiant. Puis, il y a des gens partout à travers le monde qui regardent ces vidéos, qui commentent, qui font cette formation qui dure sur une année. Puis, le formateur, une des premières choses qu'il nous a dit, c'est pour avoir du succès, trouvez-vous quelqu'un dans votre environnement qui va faire les vidéos avec vous autres, qui va faire la formation avec vous autres. Ça va vous permettre d'échanger, ça va vous permettre de vous motiver, de vous booster un à l'autre. Donc, avoir cette relation, cette connexion humaine avec quelqu'un est vraiment un élément de succès. Donc, trouvez-vous la personne qui vous inspire et travaillez avec cette personne dans votre milieu de travail. Si on passe au deuxième atout, c'est les atouts émotionnels. L'intelligence émotionnelle comprend les habiletés de comprendre et de gérer ses émotions. Les atouts des émotions nous aident à communiquer nos idées et et nous permettent de donner des rétroactions positivement, de sorte à engendrer une communication ouverte et une meilleure compréhension entre nous, nos collègues de travail ou même nos gestionnaires ou nos superviseurs. Donc, si on regarde comment développer nos atouts émotionnels, eh bien, premièrement, commençons par examiner comment nos propres émotions et les émotions des autres nous affectent. Quand on se sent dépassé par les émotions, il est important de prendre un recul, de prendre un souffle. Ce recul ou ce souffle va nous permettre d'avoir une nouvelle perspective sur la situation, puisque nos émotions sont comme des filtres à travers lesquels on perçoit les situations. Puis souvent, quand nous sommes vraiment trop dans nos émotions, surtout des émotions négatives, ça va nous amener à faire des décisions qui sont peut-être moins logiques ou moins positives pour tout le monde qui fait partie du groupe. Une deuxième stratégie est de porter attention aux émotions des autres. Écoutez, posez des questions, réfléchissez aux émotions des autres. Ainsi, vous démontrez un intérêt pour ces gens et vous faites la promotion de l'entente et de la compréhension mutuelle. Ça revient un peu à dire traiter les autres comme vous souhaitez être traité. Donc, c'est sûr, si vous portez attention aux émotions des autres, à leur vécu par rapport à la situation actuelle, ils feront possiblement la même chose pour vous. Et aussi, communiquer avec sensibilité. La façon qu'on exprime nos émotions a un impact chez les autres. Il est important d'être honnête, conscient. D'être conscient de notre façon de s'exprimer. Une communication efficace se penche sur une préoccupation des émotions des autres et non sur le caractère de la personne. Exprimez-vous par des énoncés qui utilisent le « je » au lieu de le « tu ». Okay? N'oubliez pas le pouvoir des mots. Souvent, les mots qu'on choisit d'utiliser vont avoir une influence directe sur la perception que l'autre va avoir de notre message. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez pour exprimer des situations qui sont peut-être très fortes en émotion pour vous. La troisième composante pour développer la résilience en milieu de travail sont les atouts du professionnalisme. Une personne résiliente perçoit qu'elle exerce une plus grande influence sur les diverses circonstances puisqu'elle a une bonne compréhension des enjeux et également une connaissance des habiletés et des talents qu'elle amène à la situation. Lorsqu'on démontre du professionnalisme en milieu de travail, nous sommes plus confortables dans l'exercice de nos fonctions et nos habiletés à nous ajuster positivement aux nouvelles exigences et aux changements dans l'organisation. Les atouts du professionnalisme nous proviennent évidemment de notre formation, mais aussi de nos aptitudes personnelles, de ce que nous amenons, okay? Et de la confiance que l'on possède pour exercer nos fonctions et aussi la confiance que l'on possède pour assumer les responsabilités dans l'organisation. Les outils du professionnalisme. Premièrement, il faut parler des habiletés de résolution de problèmes et de raisonnement. Deuxièmement, l'acquisition de la formation spécialisée reliée au poste détenu. Donc, la formation continue. Les gens professionnels reconnaissent qu'ils ont toujours à apprendre, qu'ils sont des étudiants éternels et qu'ils peuvent toujours grandir dans leurs connaissances et dans leurs habiletés. Troisièmement, le soutien et la confiance des pairs et des gestionnaires dans notre prise de décision et dans nos actions. Aussi, la capacité de demander de l'aide aux besoins. Être professionnel ne veut pas dire tout savoir, mais effectivement, savoir quand on ne sait pas tout pour aller chercher l'aide, poser des questions. Et finalement, le besoin d'apprendre et la soif d'apprendre, l'amour de l'apprentissage. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est important de toujours apprendre, de toujours s'éduquer, de toujours développer de nouvelles habiletés. Afin de créer les atouts du professionnalisme, il est important, comme on disait, de rechercher la formation et l'éducation requises. Préparez-vous un plan d'action pour obtenir la formation requise pour atteindre le degré de certification que vous souhaitez. De plus en plus, on a accès à des formations gratuites dans l'Internet qui sont excellentes. C'est une chance en or que nous avons de développer de nouvelles connaissances, des nouvelles habiletés, peu importe où nous situons dans le monde. Comme on le disait effectivement tout à l'heure, posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions et demander des explications ou des points de clarification auprès de vos collègues de travail, auprès de votre direction, auprès de vos gestionnaires de programme. Donc, poser des questions montre un intérêt et nous permet aussi de développer et de clarifier les connaissances qu'on n'a peut-être pas tout à fait compris. Profitez des opportunités d'apprentissage offertes, que ce soit des conférences, des cours du soir, des webinaires, des vidéos, des podcasts, n'importe quoi, des lectures professionnelles qui sont suggérées par votre gestionnaire ou même qui vous intéressent. Participez aux activités de la communauté et de l'organisation. Lorsqu'on fait du bénévolat ou qu'on donne aux autres, on développe également des habiletés et on prend confiance tout en donnant des services de grande valeur envers les autres. Donc, la recherche démontre que lorsqu'on fait du bénévolat, non seulement la personne qui reçoit nos actions en bénéficie, mais la personne qui offre des services de bénévolat ou qui offre à sa communauté bénéficie grandement de ces expériences. Consultez des collègues de travail qui ont cette expérience ou qui ont peut-être plus d'expérience que vous. Entretenez des conversations avec des personnes de votre domaine qui sont reconnues comme des experts, qui sont disposés à partager leur savoir. Je vous lance même le défi d'identifier quelques personnes dans votre domaine que vous appréciez. Faites-vous un but de discuter avec ces personnes-là, peut-être les inviter pour un café. Souvent, ça va leur faire très plaisir de partager leurs connaissances avec vous, puis ça va être une expérience très, très riche pour vous également. Les prochains atouts dont nous allons discuter sont les atouts de l'adaptation. On utilise les outils de l'adaptation pour réduire le stress et pour s'adapter plus positivement aux changements dans notre vie personnelle ou dans la vie au travail. Les stratégies d'adaptation comprennent les habiletés de gestion de stress, mais également des stratégies proactives pour gérer les changements organisationnels et les modifications aux rôles et aux responsabilités. Lorsqu'on parle de stratégie proactive, c'est surtout de ne pas se laisser surprendre par le changement. Lorsqu'on sait qu'un changement arrive, on se prépare à l'avance. De cette façon-là, on ne sera pas surpris par le changement qui va faire en sorte qu'on réduit l'anxiété face à ce changement. On l'attend, on sait que ça arrive, on se prépare. Une autre stratégie est le soutien envers les personnes qui doivent vivre des transitions personnelles ou professionnelles reliées à une réorganisation organisationnelle. Comment développer les atouts de l'adaptation? Eh bien, premièrement, il est important d'identifier les sources du stress et développer des pistes de solutions et d'actions pour les réduire. Donc, au lieu de dire « je suis stressé », c'est de voir qu'est-ce qui sont les facteurs de stress et comment nous pouvons les gérer. Il faut aussi apprendre à décomposer un problème en petites tranches de sorte à pouvoir identifier les éléments sur lesquels il est possible d'agir, sur lesquels on peut travailler. Souvent, quand on prend la montagne et on la défait en petits morceaux, cela semble moins épeurant et plus faisable. Préparez un plan d'action pour modifier les éléments qui sont dans votre contrôle et ainsi améliorer la capacité de vivre avec les autres éléments sur lesquels il nous est impossible d'agir. Donc, s'il y a un changement qui se présente dans votre équipe de travail ou dans votre organisation, il y a certainement des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Mais votre réaction, la façon que vous allez entretenir des liens avec les personnes qui vivent la même chose que vous, votre façon de gérer votre stress à l'extérieur du travail, ce sont tous des choses sur lesquelles vous avez du contrôle et qui vont vous permettre de vous sentir mieux outillé pour faire face à cette situation. Consultez avec les autres pour mettre en valeur les habiletés combinées de résolution de problèmes. Donc, encore une fois, tournez-vous vers les autres, utilisez vos relations sociales stables et positives. Souvent, les autres personnes qui vivent la même situation que nous vont peut-être avoir différentes stratégies, différentes solutions pour y faire face. Ensemble, on peut peut-être trouver les meilleures solutions, les solutions gagnantes. Allouez du temps pour les activités récréatives qui vous procurent du plaisir, qui vous détendent et qui vous permettent de vous ressourcer. Souvent, c'est lorsqu'on a moins le temps de faire des choses ou c'est lorsque nous avons plus besoin de faire des activités récréatives ou des activités pour se prendre soin qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. Un peu comme l'analogie de la voiture, on ne s'attendrait pas de traverser, disons, le Canada sur un réservoir d'essence. Donc, régulièrement, il faut faire le plein d'essence si nous voulons se rendre à destination. Notre corps est un peu de la même façon. C'est important de se ressourcer régulièrement si nous voulons passer à travers une situation difficile ou un changement qui va s'étalonner sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou peut-être même sur une année. Adopter un mode de vie sain en prenant part à l'activité physique et aussi en adoptant de bonnes habitudes alimentaires. Les prochains atouts que nous allons regarder sont les atouts de l'attitude positive. Les atouts de l'attitude positive nous donnent une disposition positive, un certain optimisme face aux situations difficiles ou aux défis auxquels on doit faire face. Lorsqu'on possède une attitude positive, on voit les obstacles et les défis comme une phase temporaire qui offre une opportunité d'apprentissage importante. Souvent, je fais la nuance avec mes clients, le mot « obstacle » et « défi ». Souvent, un défi nous motive. Un défi, c'est quelque chose auquel on veut faire face, quelque chose auquel on veut surmonter. Tandis que, pour moi, obstacle, c'est une connotation un peu plus négative, dans le sens que c'est quelque chose qui nous arrête, qui nous empêche. Donc, au lieu de voir les choses comme des obstacles à notre développement, les voir comme des défis qui vont nous permettre de se dépasser et de grandir également. Selon le chercheur Martin Seligman, qui est un des pères fondateurs de la psychologie positive, les personnes positives sont moins enclines de se sentir impuissantes et incapables de contrôler les situations qui se présentent à eux. La recherche de Seligman souligne qu'une personne positive et optimiste a la capacité de défier ses pensées négatives et ainsi sa culpabilité. Donc, comment créer les atouts de l'attitude positive? Eh bien, premièrement, on peut suggérer que les défis et les situations difficiles sont que des périodes temporaires et ne sont pas des conditions permanentes. Donc, tout est en changement et la période difficile qu'on est en train de passer à travers, pour quelque raison que ce soit, va aussi être temporaire. Il va y avoir à un moment donné des changements, les choses vont se restabiliser. Donc, s'assurer de se dire que cela aussi, c'est temporaire et que les choses vont s'améliorer. Deuxièmement, il est important de remplacer les conversations qui cherchent à blâmer le système ou les gens par des conversations sur les forces et les habiletés pour aller de l'avant. Donc, souvent, on va blâmer les contraintes, les coupures de budget, les décisions que les supérieurs ont prises. Mais il est plus efficace d'identifier les forces et les habiletés qui se trouvent à l'intérieur de nous que nous avons pour surmonter et pour se dépasser et grandir dans cette situation auquel on fait face. Il est aussi important d'identifier les opportunités immédiates pour passer à l'action et reconnaître le mérite de l'équipe ou des collègues de travail. Donc, souvent, quand on se sent impuissant, on ne passe pas à l'action. Il est important de trouver des situations ou des petits défis auxquels on peut faire face aujourd'hui pour se mettre à l'action. On devrait avoir comme objectif de faire au moins une action positive envers notre but à long terme à chaque jour qui va nous permettre de se sentir plus en contrôle de la situation. Il est important d'apprendre à déjouer nos pensées ou nos croyances ou nos interprétations erronées de la situation. Équilibrer les défis du changement avec les perspectives reliées aux forces, au succès vécu, à la vision, à l'espoir et à l'engagement. Il est important souvent de revoir nos succès antérieurs. Donc, même si on fait face à un défi aujourd'hui, dans notre vie, on a déjà fait face à d'autres défis, que ce soit dans le milieu du travail, dans notre vie personnelle, avec notre famille, notre santé, peu importe. Donc, prendre le temps de voir les succès qu'on a vécu en faisant face à des défis, en voyant à quel point nous avons grandi dans cette situation-là, peut parfois nous donner la motivation de poursuivre. Malgré les circonstances plutôt difficiles, créer des nouvelles opportunités d'agir et d'adopter des solutions innovatrices. Souvent, c'est quand on fait face à une nouvelle situation qu'on va trouver de nouvelles stratégies qui vont nous permettre de grandir. La reconnaissance ou la prise de conscience que les situations difficiles sont temporaires plutôt que permanentes est très, très importante dans cette situation ici. Donc, voilà un survol des atouts nécessaires à développer la résilience organisationnelle et individuelle. Donc, pour terminer, on aimerait vous suggérer une activité. Donc, suite à cet atelier, joignez-vous à un collègue de travail pour identifier les types d'atouts individuels et organisationnels qui agissent sur la résilience organisationnelle. Dans votre organisation à vous, pour chaque atout, veuillez identifier s'il s'agit d'un outil ou d'un atout existant, un nouvel atout ou un atout qu'il faudrait développer. Lorsqu'on dit nouveau, ce serait un atout qui est en émergence, qui commence à se présenter, mais qui n'est peut-être pas très défini ou qui n'est pas toujours ancré. Veuillez indiquer un score pour chaque outil. Par exemple, pour l'atout d'attitude positive, si c'est existant, vous pouvez donner un 5. Si c'est en émergence ou que c'est nouveau, vous pouvez donner un 3. Et si c'est à développer, assignez un 1. Une fois terminé, veuillez considérer comment on pourrait promouvoir ou améliorer la résilience organisationnelle en se servant de ce modèle. Également, nous avons deux outils qu'on peut vous faire parvenir. Un inventaire personnel de la résilience et un inventaire de la résilience organisationnelle. Donc, si vous voulez travailler avec ces outils pour en apprendre davantage sur votre résilience personnelle ou la résilience de votre organisation, ce sont des outils que nous pouvons vous faire parvenir. Merci beaucoup.